Quatrième épisode du plus petit masque du monde, ce reportage consacré à Laurie Leschine et Caroline Simmons. Pour cette quatrième et avant-dernière partie de cette interview de Tata Jeep, Josette Giroffe, sont évoqués notamment les parents, le conseil d'administration et son président, les innovations dans les pratiques, mais également un chouette projet, vous l'entendrez, le projet Annonce. J'imagine que les parents doivent vous être très reconnaissants, les parents de tous ces enfants.
Ah oui, c'est quelque part, je suis autant émue, peut-être plus émue par les parents que par les enfants, parce que les enfants, surtout moins de 10 ans, ils ne se rendent pas compte du temps, pas autant que ça, ils rebondissent, ils ont une force de vie, les enfants, une force de résilience, de rebondissement juste incroyable. Mais les parents, ils encaissent. Hein. Souvent, ils se sentent très coupables, ou etc. Ils ont une notion de temps et de temps qu'on perd, ou des séquelles, tout ça. Ils se projettent des enfants, tout ça. Donc, tu vois beaucoup de souffrance. Souvent, on rentre dans une chambre. Et dès que l'enfant rigole, même si c'est un enfant qui n'a pas rigolé depuis des jours, des semaines, les parents, ils vont commencer à pleurer. Hein. Et tout le monde rigole, sauf les parents qui pleurent. Ou tu les rencontres dans les couloirs et ils te rattrapent par la manche et ils te disent leur gratitude ou comment l'enfant a passé quelques moments différents. C'est juste une boule d'oxygène pour eux, on a des témoignages, et ça continue, on a des témoignages incroyables des parents qui nous écrivent, soit par courrier, soit par mail, ou tu les croises dans les couloirs. Et même si l'enfant, ça c'est toujours génial, quand l'enfant nous rejette. On a quelques exemples où les enfants, pendant des semaines peut-être, les enfants va nous faire la vie dure, hein. Ou il nous admet, on a le droit d'être dans la chambre et il nous maltraite. Mais qu'est-ce qu'il nous maltraite? Et ça, c'est tous les âges. Et on pense que, l'enfant, il doit nous trouver nul. Et parfois, on demande aux parents, mais peut-être il vaut mieux pas qu'on vienne, il vaut mieux que... Hein, donc, vous pouvez nous dire de ne pas venir. On va pas prendre ça personnellement. Et les parents nous disent, non, il faut venir. Quand vous partez, l'enfant, qu'est-ce qu'il est heureux, il nous parle de vous pendant des heures. C'est absolument indispensable qu'il maltraite des clowns. Ça lui fait beaucoup de bien. Et ça c'est incroyable, ce rapport. On a beaucoup d'exemples de ça.
Moi, j'ai aussi des exemples d'enfants, par exemple, qui rechutent, qui reviennent. Mmh. Et la première chose qu'ils disent, c'est que « t'as dansé avec ma grand-mère, j'oublierai jamais. » Ou bien « oh, qu'est-ce que tu parlais mal chinois ?» Je dis, je parlais chinois, moi. Ouais, tu disais, je suis une girafe en chinois. Mais tu disais jamais bien. Et ma famille, bon, c'était l'enfant chinois. Qu'est-ce que ça rigolait? Mais je te détestais. Et puis, c'est comme disait Laurie. Mais peut-être, pour moi, un des plus grands moments, c'était que dès le départ, j'ai insisté qu'un parent fait partie du conseil d'administration du Rire Médecin.
Ah oui, c'est le cas.
Et on a toujours eu un parent. Ça change tous les 3-4 ans, hein, le conseil d'administration, parce qu'il faut que ça se renouvelle. En ce moment, on a le parent d'un enfant que moi j'ai connu à l'hôpital Saint-Louis quand il avait 6 ans. Maintenant, il a 20, je ne sais pas quel âge. Son père entrepreneur, vraiment très important. Et c'est un mec génial, parce qu'à la fois, il sait ce que c'est d'être un parent, il sait ce que c'est d'avoir un enfant malade, et en même temps, c'est un businessman. Donc, il est droit dans ses bottes avec nous, tu vois. Donc pour moi, c'est très important. Et même, j'ai eu une ancienne patiente pendant 20 ans sur le conseil d'administration. Elle vient d'avoir un bébé, donc elle n'est plus là. Mais c'est un enfant qu'on a connu quand elle avait 15 ans, en dialyse, qui était greffé, etc. Et qui a resté sur le conseil d'administration jusqu'à très récemment, quoi. Et pour moi, c'était hyper important je dirais comme directrice, fondatrice d'une association, de voir toujours cette voix importante, tu vois, de pertinent d'un parent, point de vue d'un parent, point de vue d'un enfant, enfin, l'enfant qui a grandi. Et que ça, nous, comme ça, on n'est jamais loin de notre mission, jamais loin de nos valeurs. Ça, c'est super important. On a même un comité éthique aux médecins, pour vous dire. On a tout. Hein.
Justement, qui compose ce conseil d'administration?
On s'est beaucoup professionnalisé. En même temps, on a commencé, mais pas très artisanal, parce que moi, je suis venue des États-Unis. Je me suis dit, il faut que je m'entoure bien. Donc, j'avais au départ deux énarques. Quelqu'un qui était à la Cour des comptes, quelqu'un qui était le ministre de la Culture, deux, trois soignants. Et j'ai toujours insisté, et là j'insiste toujours, que notre président soit un médecin. Et pourquoi ?
Le président du conseil.
Président du conseil d'administration soit un médecin. Pour moi, c'est pas simplement pour nous valoriser, c'est parce que ça nous donne quelque part un cachet de respect. Si un médecin important, connu, prend le risque d'être président du Rire Médecin, un bande de rigolos, bien sérieux, ça montre aux autres médecins et soignants qu'il y a une valeur dans notre travail. D'ailleurs, moi, j'ai un président extraordinaire en ce moment, Philippe Hubert, professeur, qui était chef des soins intensifs à l'hôpital Necker pendant très, très longtemps, je crois 20 ans. Et c'est extrêmement important pendant la pandémie parce qu'il nous a aidés à revenir dans les hôpitaux. Il nous a aidés à monter un protocole anti-Covid, on va dire ça, pour les comédiens. Dès que quelqu'un fait achoum, lui, il est au téléphone avec ce comédien. Je veux dire, ça, c'est hyper important. Le networking entre médecins, il faut jamais sous-estimer aussi. Il est extrêmement attentif et comme il est à la retraite, il a le temps aussi de, je veux dire, de soigner tout ce qui est, on va dire, structure médicale et scientifique autour de nous. On est en train avec lui et Clotilde Mallard, qui est notre directrice générale, qui est absolument pareil, géniale. On est en train de monter une rencontre, je dirais pas scientifique, mais de réflexion autour de la recherche sur les médecins, autour de nos nouveaux pratiques, l'innovation, même le progrès qu'on a fait en oncologie depuis 30 ans. Donc, il y a Dominique Valto, qui est chef de service à IGR, enfin, pas IGR, il ne faut plus dire ça, Gustave aussi qui va intervenir. On va parler d'un programme innovatif qui s'appelle HAD, hospitalisation à domicile. Et on va parler aussi, dans cette petite colloque, de l'annonce, un projet qui s'appelle Annonce, où les comédiens de Rire Médecin sont pas en clown, ils sont que en comédien, et ils vont simuler des parents qui reçoivent une mauvaise nouvelle. Donc, on fait partie d'un tout un programme pour entraîner des jeunes médecins, mais même des médecins, des internes, à pouvoir être dans une ambiance laboratoire où ils peuvent rater l'annonce. Devant un patient, tu ne peux pas rater une annonce. Souvent, ils ratent les annonces.
C'est brutal. Hein.
Ça peut être brutal. Donc, nous, au service de la médecine, on a développé, on a formé 32 comédiens à faire ça. Un peu partout en France, on a un programme à Tours depuis 4 ans où on fait 20 interventions à la fac de médecine. Donc on sert de, comment dire, mais on reçoit le scénario une semaine avant, 3-4 scénarios, et les deux comédiens vont jouer 3-4 paires de parents différentes. Il y aura la mère angoissée, le père qui est dans le déni, qui regarde sa montre, qui attend son téléphone, un père effondré avec une mère dans le déni total. Donc on va jouer des situations réelles et pas trop extrêmes. Et vraiment, après le temps, ça sert vraiment pour les jeunes médecins à pouvoir confronter, affronter, rentrer en bonne relation avec des parents. C'est une façon de redonner. Je veux dire qu'on a tellement reçu des soignants, on a reçu beaucoup. On a vraiment appris à qui fait quoi, comment intervenir, avec quelle distance. Et en même temps, on a vu les fragilités des soignants. par le burn-out, par le, bon, le turnover est phénoménal. Il est toujours phénoménal à l'hôpital. Donc, quelque part, si les clowns peuvent presque servir comme un remède anti-burn-out par moment. Je dis, c'est pas la solution, hein. Mais si on peut faire partie d'un encadrement qui les aide à mieux gérer la journée, tant mieux. Mais si en dehors de l'hôpital, on peut les aider à mieux avoir des techniques qu'on a volées du clown, quelque part du clown, du comédien, pour regarder les parents dans les yeux, des choses simplement comme ça. Pas croiser les bras comme ça, qui symbolise quelqu'un de fermé. Je veux dire, voilà, donc on donne toutes nos techniques à des soignants qui puissent avoir plus d'outils de travail. Parce qu'il n'y a pas que l'intuition et les expériences. Les expériences vont toujours alimenter notre technique et les médecins séparés, mais il ne faut jamais sous-estimer le besoin de plus de techniques sans tomber dans la technicité.